Que le Seigneur vous donne à tous et à toutes sa paix et sa joie. Qu'on vient de commencer quelque chose sur la fraternité par la salutation évangélique que François avait l'habitude de prendre quand il s'adressait aux autres, pour nous rappeler que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu et que nous sommes déjà plantés dans son amour. Je vais essayer dans le temps qui m'est imparti de ramasser quelques réflexions autour de la fraternité. Je vous propose quatre temps. D'abord, un premier temps pour reprendre les trois piliers l'expérience de François, qui est à la source pour lui de cette ouverture fraternelle. Après quoi, je prendrai simplement un temps de réflexion sur le chemin fraternel de François. Quel a été son itinéraire fraternel et comment ça s'est passé. En troisième point, j'essaierai d'éclairer sa vision une vision portée vers l'avant, vers l'accomplissement de nos existences, et un accomplissement qui est l'entrée dans le plan de Dieu et la contemplation de ce plan de Dieu dans le Christ. Et je terminerai avec la chance que représente, comme nous le disent les constitutions, le chemin de la fraternité tel qu'il est proposé. Et qu'est-ce qu'est la fraternité et institutionnelle. Je crois que c'est important de saisir cela. Donc, je commence par les trois piliers de l'expérience de François, l'expérience chrétienne de François. Le premier, évidemment, c'est une triplette qu'on ne peut pas dissocier. Inutile de chercher la priorité de l'un ou de l'autre. On ne sait pas d'ailleurs historiquement dans quel ordre les placer. Mais ça importe peu parce que, je dirais, c'est la même réalité qui se présente à François dans son expérience sous trois formes, si j'ose dire. En tout cas, dans son testament, lui, quand il fait sa relecture d'existence à la lumière de la foi, la première chose qui pointe, c'est la rencontre du lépreux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette rencontre du lépreux? Je crois qu'il est important de saisir que François est initié, appelé à la miséricorde, en ce lieu où le monde se déconstruit, en ce lieu de l'exclusion, et en un lieu finalement séculier. Je crois que ça, c'est important à saisir. Ça veut dire que dans nos existences, tout ne se passe pas dans l'Église, tout ne se passe pas dans... C'est l'univers entier qui est un lieu sacré. Et tout particulièrement au cœur de l'humanité, au cœur de ce qui est la fine pointe du dessein de Dieu, c'est-à-dire l'homme créé à son image et ressemblance. Et nous savons combien c'est difficile de reconnaître un visage divin dans une personne abîmée, si je peux dire. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est au cœur même de l'espérance qui va habiter François en permanence. Et je pense que pour nous, au cœur du monde, c'est un lieu de renaissance permanente et c'est un lieu aussi de témoignage essentiel. Mais comme le dit François, c'est un don. C'est pas nécessairement par notre initiative. C'est un lieu de rencontre du Seigneur, c'est le lieu de la rencontre d'un appel. Alors, il est peut-être important pour chacun de nous de prendre le temps de faire mémoire de quelques rencontres dans notre existence qui sont de l'ordre de l'imprévu, mais de l'ordre de l'essentiel pour nous avoir déplacés. À notre part, François nous rappelle que Dieu est toujours imprévisible et que nous ne le rencontrons pas nécessairement où nous le cherchons. Donc il y a une disponibilité là, et peut-être à réviser certaines de nos cadres mentaux. Et ça passe par l'amour de compassion, ça passe par la miséricorde, et je dirais c'est finalement l'expérience de ce que notre pape désigne par la périphérie. Faut pas oublier que autour d'Assise, la léproserie, c'est quand même une exclusion. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr le Christ de Saint Damien, avec, je dirais, l'entrée progressive de ce qu'est le désir de Dieu que, comme son peuple, nous devenions son temple véritable, que nous prenions conscience que nous sommes appelés à être la maison de Dieu, que nous sommes des pierres vivantes pour la construction de ce que le Seigneur veut faire de l'humanité. J'insiste pas beaucoup, deux choses simplement, et de nos deux derniers papes, Benoît XVI le disant, le travail de reconstruction de l'Église, ça commence par la reconstruction de chacun de nous-mêmes. Ça commence par votre conversion, par votre réajustement. C'est pas d'abord d'ordre structurel, c'est d'abord l'ajustement personnel. Et je pense que pour notre cheminement en fraternité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est pas des critères sociologiques, c'est pas des critères... c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Ce que souligne admirablement le pape François, quand il dit « qu'est-ce que François a à nous apprendre dans cette rencontre de Saint Damien ?» Il a appris à se laisser regarder par le Christ. Il ne l'a pas seulement regardé, il s'est laissé regarder par lui. Et on est entré dans une relation à travers le regard. Et le Christ de Saint Damien, regardant Saint François et l'aimant, ne regarde pas que François. Quand on regarde le Christ de Saint Damien, il nous regarde, bien sûr. Mais il regarde aussi tout le monde dans lequel nous sommes. Et là aussi, c'est important. Cette largesse du regard bienveillant du Christ. Et celui qui nous regarde, c'est pas un mort, c'est Christ vivant, les yeux ouverts, communiquant l'amour de Dieu. Là aussi, enfin je dirais pour nous, dans une journée comme celle-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le lieu de l'adoration? Si on se rappelle là aussi que notre pape François nous dit, le fond de la prière, c'est pas tellement de quémander à Dieu, ou c'est d'être là à l'écoute de son amour et à la réception de son amour. Et je crois que dans la pratique de notre fraternité, ces temps d'adoration, ces temps de disponibilité gratuite pour le Seigneur sont essentiels, parce qu'ils nous restructurent de l'intérieur. Et donc, il s'agit de se laisser reconstruire à partir de cela. Et le troisième point, c'est François, j'allais dire le héros du grand roi, la joie de l'annonce de l'Évangile, la joie de percevoir que le Christ envoie ses disciples pour que cette bonne nouvelle qu'il les fait vivre et qu'ils accueillent, ce soit pas un trésor qui capitalise, mais ce soit quelque chose qui ventile à tout vent. Donc vous voyez déjà simplement dans ces trois piliers, vous avez pratiquement, je dirais, tout ce qui est proposé pour la structuration d'une vie fraternelle, qui ne soit pas une vie repliée sur elle-même, mais qui soit une vie de réalisme de l'amour de Dieu à l'œuvre en nous, faisant de chaque homme, de chaque être, un proche, nous demandant de nous approcher de chacun. Nous demandons de revenir à la source de cette approche possible, parce que finalement ça c'est possible en découvrant que le Christ s'est fait proche de nous, et que en lui Dieu s'est fait proche de nous, et qu'il nous a rendus proches des autres. Et en même temps, c'est une richesse qu'on ne peut pas laisser en vase clos, c'est quelque chose qui doit transpirer dans toute notre existence. Donc ça, on voit bien qu'à la source d'un comportement fraternel, il y a la grosse question pour chacun d'entre nous, qui est la question d'une conversion. C'est la question qui est au cœur même de la démarche de proposition de la fraternité. Une vie de pénitence, c'est-à-dire une vie de réorientation complète des dynamismes qui sont en nous. Et ça ne peut se faire, je dirais, qu'à la lumière de celui qui est l'exemplaire, c'est-à-dire le Christ crucifié. Je dirais la réorientation la plus profonde en nous, elle ne peut venir que d'un amour très ardent du crucifié, parce que c'est là que se révèle l'amour, la proximité, la tendresse de Dieu, et que c'est là que se trouve notre espérance. C'est toujours un chemin pascal. Ce chemin pascal dans lequel on est entré par notre baptême, qui nous a plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ, et le but, je dirais, de notre fraternité, c'est d'amener cette grâce baptismale à sa pleine floraison et à sa pleine fructification. Donc, l'objectif premier, c'est ça. Alors, le chemin fraternel de François, quand on a aperçu cet objectif et quand on s'ouvre à cela, bien sûr, on est en cheminement, on n'est pas arrivé, et on n'est pas seul. Donc, je dirais, on se trouve avec un appel. Ce que François nous dit, c'est que ce qu'il propose, enfin, ce qu'il accomplit avec les frères que le Seigneur lui donne, c'est pas quelque chose qui est un projet de son cru. C'est une réponse à un appel. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour nous, parce que ça veut dire que le chemin franciscain dans lequel nous essayons d'avancer et de trouver le chemin de notre accomplissement, il n'est pas d'abord de notre initiative. C'est de se rappeler que c'est d'abord un don du Seigneur et une donation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette donation? Ça veut dire que les frères et sœurs qui nous sont donnés, ils ne sont pas nécessairement de nous. On n'est pas dans une élection réciproque. On est, je dirais, dans la disponibilité à ce que le Seigneur nous demande de vivre pour signifier la possibilité d'un monde nouveau dès maintenant. Et les historiens nous disent que c'est probablement quelque chose qui a marqué l'explosion première du mouvement franciscain. C'est que le premier groupe qui était là, dans cette société hyperstructurée, hyperbloquée qui était la société médiévale, ils n'avaient aucune chance de cheminer ensemble. Alors, je crois qu'on retrouve là aussi une des composantes extrêmement importantes de nos fraternités, c'est que ce ne sont pas des fraternités de classification. Ce sont des fraternités d'inclusion. Mais fraternité d'inclusion, ça veut dire que, je dirais, on a à s'ouvrir à ce que le Seigneur nous indique à travers ceux qui nous ont. Et ça demande une purification. Je dirais d'accueillir le don que le Seigneur nous fait à travers les autres. Et ça suppose, je dirais, qu'on ait une vue du plan de Dieu, qu'il ne soit pas une vue par petits morceaux, mais qu'il soit la prise de conscience que le dessein de Dieu, il est unique et il comprend tout le monde, dès le départ. Et que sa réalisation suppose qu'on cède les uns et les autres, je dirais, à être au cœur même de notre vocation personnelle, une vocation personnelle qui est toujours reliée aux autres. On ne peut pas être dans un régime individualiste. On est dans un registre personnaliste. Et ce qui fait la personnalité, c'est la parole créatrice que nous sommes. Finalement, à travers chacun de nous, Dieu parle. Dieu dit quelque chose et nous n'existons que par la force de sa parole. Donc, ce don est à l'origine. Le deuxième point, c'est, on voit bien que, et François le dit dans son testament, ceux qui sont donnés les uns aux autres par le Seigneur sont là un peu désemparés. Et ils ont besoin de découvrir ce que va être leur cheminement. Et François a dit qu'il ne savait pas trop comment faire, mais que le Seigneur lui a révélé qu'il devait construire une existence selon la forme du Saint-Évangile. Et on voit bien les premiers, François et les premiers qui le rejoignent, vont consulter l'Évangile pour savoir quelle forme va prendre leur existence. Et les trois passages de l'Évangile qui leur tombent sous les yeux et qui vont être ce qui va constituer le style de leur vie sont typiques de l'engagement évangélique radical. Donc c'est bien la radicalité de l'Évangile qui est au cœur même de la démarche. Mais ils vont se rendre compte qu'en essayant de vivre cela purement et simplement, ils vont rencontrer toute une série de résistances en eux-mêmes et dans leur entourage qui va exiger d'eux progressivement une forme de discernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie évangélique actualisée sans une forme de discernement qui conduit au choix d'actualité. Et là encore, je crois qu'on est devant quelque chose qui est extrêmement important parce que ce qui va être la règle est simplement, si j'ose dire, le condensé d'une expérience spirituelle qui va servir de point de repère pour le discernement qui sera à continuer. Et je crois que ça, c'est important pour nous, pour recevoir la règle, non pas comme un règlement à appliquer, mais comme, je dirais, la sécurité du discernement et d'une démarche qui nous pousse plus loin. Et je crois que là, on est vraiment au cœur de l'expérience de François. Dans son testament, qui est postérieur à la règle officielle, il dit aux frères, ce n'est pas une autre règle, pas une autre règle. Il ne met pas sa confiance dans la réglementation. Il met sa confiance dans l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint. Et c'est pas au mépris de la règle. Mais on ne va à la lettre de la règle que si on se laisse transformer intérieurement. Et cette transformation, elle suppose le travail de l'intelligence, elle suppose aussi la réponse du cœur totalement donnée au Seigneur. Et l'expérience de discernement, François réalise qu'elle se fait dans un lieu de soutien qui est le lieu des relations entre les frères, les moments où ils se retrouvent, les moments où ils partagent ce qu'ils vivent, les moments où ils essaient ensemble d'éclaircir ce qui est en jeu dans leur existence. Et de discerner ce qui est un obstacle pour leur vie évangélique et de se donner les moyens finalement de faire passer cette vie évangélique dans leur existence. Alors, je voudrais simplement rappeler quelques jalons essentiels. D'abord, l'expérience faite que les frères sont extrêmement variés. Et bon, nous savons bien dans notre expérience de fraternité que nos frères et sœurs sont chacun, une exception. Par ce sens, si vous voulez, que Dieu ne bénit pas, il ne fait pas deux fois la même chose. Donc il faut accepter comme point de départ qu'on ne soit jamais des clones les uns des autres. Et la fraternité ne peut pas se constituer sur un désir de fusion. Elle suppose, que nous acceptions comme richesse de la création et comme richesse de la grâce la complémentarité et la différence. Le pape François l'a très bien dit quand il dit que finalement, la communauté, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et on a l'impression, dans un premier temps, qu'il fait un travail diabolique parce qu'il accentue les différences et on a l'impression que ça part dans tous les sens. Mais il dit, attention, n'oublions pas que cette différence, en même temps, il la fait harmonieuse. Donc, il est à la fois le principe de la différenciation et le principe de l'union. Et ça dépasse nos perspectives habituelles. On est là dans la coïncidence des opposés. Et la coïncidence des opposés en religion, c'est le lieu de l'épiphanie, de la présence de Dieu. Alors, comment intégrer ça dans notre propre cheminement? D'accueillir à la fois ces différences et de les voir comme positives et comme chance, de quelque chose qui permet le rayonnement de la richesse divine qu'aucune créature et aucun d'entre nous ne peut, qualifier par lui-même. C'est ce qu'on dit quand on dit que l'Église, n'est-ce pas, est d'une telle variété qu'elle est une forme de resplendissement de la beauté divine qui est unique. Et nous, on est obligé d'avoir le vitrail et d'aller par morceaux. Et de laisser la lumière éclairer nos existences. Donc là, je voudrais simplement renvoyer à trois événements, trois réflexions qui sont possibles dans le cadre de la réception de traditions franciscaines. Le premier, sur ce plan-là, c'est le texte fameux du frère parfait. Enfin, frère parfait, je ne sais même pas si c'est le frère parfait. Disons, François nous dit quelque chose de l'accomplissement fraternel à travers ça. Et il nous dit que ça ne peut pas être sans la pluralité du rassemblement et des relations fraternelles. C'est un texte qu'il faut relire parce que il nous donne une approche vraiment essentiel de ce que peut être la fraternité. Entre parenthèses, je signale quand même que la fraternité est un mot fort et un mot à la mode pour nous, mais François parle très peu de fraternité. Il parle des frères. Ce qui veut dire que le cœur de la fraternité, ce sont les relations. Et des relations qui sont des relations longues. Parce que, la conscience de la fraternité, elle s'acquiert par la perception de chacun d'entre nous d'être donné à lui-même par Dieu et de réaliser que les autres sont donnés à eux-mêmes par Dieu. Et qu'il n'y a pas de relation fraternelle sans la reconnaissance d'une paternité. Et sans la reconnaissance d'un père qui est le même pour chacun d'entre eux. Et ça, je crois que le père Marie-Joseph le dit très clairement dans les textes qui ont été proposés. Il y a cette perception, il y a l'enracinement dans celui qui est chargé, si j'ose dire, de solidifier cette fraternité, en ce sens qu'il est chargé de récapituler toute l'humanité filialement. Donc, si vous voulez, l'accomplissement de la fraternité, c'est que tous, nous devenions en vérité tellement des fils que nous soyons, par le fait même, j'irais, ancrés dans l'ouverture fraternelle. La deuxième chose, c'est, que je voudrais souligner, c'est que cette fraternité, on pourrait dire qu'elle se traduit dans la pédagogie franciscaine par le soin comme l'aujourd'hui demain. Je renvoie là à un chapitre des Fioretti qui est un conte pédagogique merveilleux, le miracle de François guérissant le lépreux insupportable et dont les frères ne voyaient guère d'autre issue pour régler son problème que de le renvoyer. Et François, il en parle à François, et François entreprend, je dirais, une approche de ce dépôt. Et la chose décisive, c'est que, finalement, la guérison est obtenue à partir du moment où François dit au lépreux qu'il peut exprimer son désir et que lui se met à sa disposition pour ça. On a une inversion complète du soin où on est toujours tenté de penser qu'on sait mieux que celui qu'on soigne ce dont il a besoin. Et François lui dit, le lépreux lui dit, bon, c'est bien, tu veux me soigner, mais qu'est-ce que tu feras de plus que les autres frères qui s'avèrent incapables de répondre finalement? Et François lui dit, ce que tu me demanderas, je le ferai. Ça veut dire que l'ouverture de la parole chez l'autre suppose une disponibilité radicale et suppose finalement un chèque en blanc. Il nous est toujours difficile à donner. Et pourtant, il est essentiel. Parce que ce qui va libérer ce lépreux et qui va le sortir de son secte, de son agressivité et de sa violence, c'est qu'enfin, il est écouté. Et ce qui est terrible, c'est l'aveu de ce lépreux, il dit « Lave-moi parce que je ne peux plus me sentir ». Donc c'est la guérison de l'enfermement dans son propre malade. La troisième réflexion, et je pense que c'est important aussi pour nos vies de fraternité, c'est que celui que nous considérons comme l'apôtre de la paix et le grand modèle de la fraternité est acculé à reconnaître qu'il est impuissant à réaliser ce qu'il propose. Et je fais allusion là, à la crise spirituelle de François, à la fin de son existence, où lui, l'apôtre et le promoteur de la fraternité, en arrive pendant près de 3 ans à ne plus vouloir voir ses frères, à ne plus vouloir les rencontrer, à ne plus pouvoir le faire, parce que ses frères ne marchent pas comme il le veut. Et ce sera pour lui le chemin de l'accession à la profondeur de la pauvreté. Et à comprendre finalement que toute l'énergie et toute la richesse qu'il avait investi, je dirais, dans l'accompagnement de ses frères et dans la vie avec eux, et il doit apprendre que l'ordre ne dépend pas de lui, qu'il ne dépend pas de ses idées, et qu'il doit laisser le Seigneur gouverner les choses comme le Seigneur l'entend. Et donc, je veux dire que la diversité doit continuer dans la fraternité, avec tous les problèmes afférents. Ça veut dire que ce ne sera pas le lieu d'un totalitarisme, d'une pensée unique, ni d'un comportement absolument stéréotype. Alors après, débrouillez-vous avec ça. Il faut le gérer, il faut le vivre. Mais je crois que c'est extrêmement important d'être attentif à cette dimension-là. Finalement, il s'agit de faire sauter le bouchon de l'appropriation que nous mettons continuellement. Et ça, c'est un travail sans fin. Et ça, c'est la ruse de l'ennemi qui nous persuade qu'il ne peut y avoir de solution qu'à partir de notre propre vue. Et donc ça veut dire aussi que nous sommes appelés à entrer dans la grâce, finalement, du service. Parce qu'il n'y a pas de fraternité sans service réciproque. Dire, recevoir les autres comme don, c'est aussi accepter d'être servi par eux et de les servir. Donc d'entrer dans une réciprocité de service qui est de permettre à chacun d'aller au bout de l'appel de Dieu. Cet appel de Dieu est particulier pour chacun. Donc ça demande, enfin, je dirais, une grande sensibilité à la liberté, une grande sensibilité à ce que le Seigneur a déposé comme appel à chacun. Et ça suppose, je dirais, qu'il n'y a pas de franciscains stéréotypes. Donc c'est un lieu qui nous invite à une réorientation continuelle de notre, et à une purification de notre regard. C'est un lieu finalement de transformation, parce que ça nous demande de l'ouverture, ça nous demande de la compassion, et ça nous demande finalement une communion. Et ça, c'est le cœur de la pénitence, hein. L'ouverture, la compassion, la communion. C'est la mise en œuvre, je dirais, du dynamisme de l'amour trinitaire dans nos existences. Et c'est aussi le chemin de l'accomplissement pour tous, pour les autres et pour nous-mêmes. Bien sûr, c'est des choses, je suis obligé de les prendre par le sommet, si je peux dire. C'est un peu passif ce que je vous dis. C'est quelque chose dont vous pourrez moudre, vous pourrez digérer, vous pourrez reprendre. C'est une invitation aussi à revenir à nos sources et à les intégrer de l'intérieur, pas simplement comme des images pieuses, mais comme tout le travail intérieur auquel ça nous invite, à toute la décantation que nous avons à faire pour les accueillir comme un ressort spirituel de nos existences. Je pense qu'arrivé là, si vous voulez, et ayant rappelé cela, il est peut-être important de prendre un petit peu de recul, si j'ose dire, et d'avoir une vision plus large. Et là encore, si vous voulez, ce que je vous proposerais, c'est de reprendre le début de l'Épître aux Éphésiens. Parce que c'est fondamental, je dirais, pour la lumière qu'elle nous donne sur le plan d'amour de Dieu, sur l'ensemble de ce qui est en jeu dans l'existence de la création, dans l'existence du monde et dans notre propre existence. Et c'était une hymne de bénédiction. une hymne qui est structurée sur notre vocation à la louange. Donc sur la perception intime de ce qui est, en train d'advenir. Et ce qui est en train d'advenir à travers les hauts et les bas de l'histoire humaine, mais qui est le cœur même de l'amour de Dieu nous appelant à partager sa propre existence. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Élu en lui, dès avant la création du monde, pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour, déterminant que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus. C'est un texte d'une densité étonnante. Mais je veux dire, ça nous surprend toujours, parce que c'est vraiment la primauté de l'appel divin et du désir de Dieu qui est à la source finalement du fait qu'il nous invite à partager sa propre vie et que son amour s'exprime à travers ça. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. C'est pas simple, je dirais, dans nos processus mentaux, de reconnaître qu'avant un déterminisme qui régit l'ensemble de la pensée, il y ait à la source une volonté libre qui est celle de Dieu, et que ça détermine le sens de tout. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour les réaliser quand les temps seraient accomplis. Et ce dessein, c'est quoi? C'est ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est en lui encore que nous avons été mis à part pour être à la louange de sa gloire. C'est en lui qu'après avoir entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle du salut et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de votre héritage. On est au cœur même de l'existence chrétienne, au cœur de ce qu'il s'agit d'actualiser dans notre existence. Et le charisme franciscain, François le reprend dans la lettre aux fidèles. Vous savez, cette page merveilleuse d'étonnement, enfin, je dirais, de ce que peut être une vie chrétienne pleinement consciente et pleinement donnée. Ce fait que nous sommes le lieu de la demeure de Dieu et que le mystère de Dieu nous habite à la fois comme personne personnellement et aussi comme communauté. Une communauté de personnes qui est à l'image du mystère trinitaire lui-même, comme le rappelle d'ailleurs le père Marie-Joseph. C'est évident que, je dirais, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et là, c'est l'importance fondamentale du Christ, l'exemplaire par excellence, qui nous indique le chemin de la vérité de notre humanité. Et ce à quoi ça aboutit, si j'ose dire, il y a d'une part, vous avez le chapitre 23 de la première règle, cette récapitulation de la réalité telle que François l'exprime dans une prière quasi liturgique, hein. C'est quasiment une préface franciscaine, où, je dirais, il commence par la racine qui est la Trinité, l'expression de cet amour qui se diffuse à travers toute l'histoire de l'humanité et qui trouve, je dirais, sa réalisation dans le Christ et qui permet la remontée de toute la réalité dans le Christ lui-même. On est là dans une perspective grandiose et dans une perspective aussi où François développe de manière très concrète ce qu'est sa vision de la communauté que le Seigneur veut se donner comme peuple. On va pas partir là-dessus, mais ça vaut vraiment la peine d'être sensible à cette union du ciel et de la terre et à cette récapitulation de tout ce qui existe sur la terre dans le Christ lui-même pour être, je dirais, le lieu de l'accomplissement. C'est grandiose. C'est émouvant. Et en même temps, François le termine par quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement remarquable. Il le termine par le fait que, je dirais, ça se termine par l'appel à être totalement orienté vers le Seigneur et à faire que toute notre existence soit à la louange du Seigneur, soit une existence d'accueil du Seigneur, une existence d'amour du Seigneur, que tout notre désir soit porté en lui et soit l'accomplissement de son dessein d'amour. Je voudrais simplement, maintenant terminer avec un petit commentaire du numéro 22 de la règle qui nous parle de la fraternité. Voilà ce qui est dit. Il dit la fraternité locale, puisque cela doit être instituée officiellement. Elle devient donc cellule de base de tout l'ordre franciscain séculier et signe visible de l'Église qui est communauté d'amour. Elle doit être un milieu privilégié qui permet à ses membres d'approfondir leur sens ecclésial, d'épanouir l'appel franciscain dont ils sont porteurs et d'animer leur mission d'apostolat dans le monde. Dans les textes qui vous ont été proposés, je dirais, il y a un passage qui était la réponse, je dirais, de la fraternité au niveau provincial des Capucins de la province de Strasbourg à la consultation pour la révision de la règle. Vous constaterez que c'est à peu près exactement ce qui est dit là. Donc c'est quelque chose qui nous touche de très près et la première réflexion c'est que la fraternité est une réalité instituée officiellement. Ça veut dire que c'est une proposition institutionnelle. Ça veut dire que l'appel personnel qu'on peut sentir, je dirais, doit s'intégrer dans cette proposition institutionnelle. Et je crois que c'est important pour nous, pour le discernement vocationnel. C'est-à-dire que l'agrégation à une fraternité et la réponse à un appel discerné à vivre ce genre d'engagement, de consécration de sa propre existence. Ça veut dire que, comme toute vocation, l'appel ressenti intérieurement n'est pas le seul critère. La réalité institutionnelle, je dirais, est là pour nous aider à discerner si vraiment on est appelé à cela ou pas. Et pour que l'appel soit concluant et que le discernement soit positif, ça suppose qu'il y ait un tuilage entre l'appel ressenti et la proposition institutionnelle qui permettent de reconnaître que, je dirais, ça ne sera pas sans lendemain, que ça peut être un chemin praticable, que ça demandera bien sûr de la croissance, que ça demandera du cheminement, mais que ça reste ouvert. S'il n'y a pas, enfin, je dirais, entre la perception de l'appel personnel et la proposition institutionnelle suffisamment d'accord, il faut savoir que c'est pas jouable. Ça, je crois que c'est important. Alors, je dirais, ça nous rend attentifs au fait que nous avons à aider ceux que nous accueillons à découvrir qu'est-ce qu'est le passage d'un désir informel à un engagement formalisé. Comment prendre conscience de cela et comment assurer le passage de l'informel à l'institué. C'est-à-dire, quelle formation a cela dans l'accueil? Un accueil responsable dans la fraternité suppose, je dirais, ce travail-là, ce travail d'accompagnement. Deuxièmement, caractérisé comme cellule de base de l'ordre franciscain séculier, on nous dit là l'identité propre de la fraternité. Cellule de base de tout l'ordre franciscain séculier, signe visible de l'Église qui est une communauté d'amour. Ça veut dire aussi que, faut être clair, la fraternité n'est pas un club de l'amitié. Bien que, je crois que c'est important, c'est aussi un lieu d'amitié et profonde. Mais ce n'est pas non plus un groupe de discussion, même si c'est un lieu d'approfondissement et de réflexion. Ce n'est pas non plus un groupe d'action, même si les membres ne peuvent pas être vivants sans agir. Ça veut dire que la question qui se pose, quel équilibre vital entre ces dimensions qui font partie de notre être chrétien. Et signe visible de l'Église, ça veut dire donc que c'est une communauté. C'est une communauté qui est caractérisée par l'amour. L'Église est présentée comme une communauté d'amour. Et ça veut dire finalement, c'est l'image d'une Église communion. Comment rendre témoignage de cela et comment être témoignage de cette réalité d'amour au cœur même de l'expérience des divisions possibles, des tensions et du cheminement dans le support fraternel. Quelle gestion finalement de nos vies fraternelles? Et est-ce que c'est possible, enfin, je dirais, de penser un cheminement de communion sans tension? Ce serait de l'ordre du rêve. Et pourtant, que ce soit aussi hors tension, en ce sens que la solution n'est pas nécessairement, je dirais, dans des manœuvres d'ordre psychologique ou d'ordre sociologique. La communion est d'abord, enfin, je dirais, un don à recevoir, une réouverture à pratiquer en chacun et un ajustement à autre chose que à notre positionnement naturel. Enfin, il est présenté comme un milieu privilégié. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important de saisir et de découvrir. Un milieu privilégié, c'est-à-dire c'est un enracinement vital. Et un milieu parce que, je dirais, nous avons besoin d'une base fraternelle et de lieux où on sait que, on peut compter sur l'ouverture et sur l'accueil des autres, parce qu'on en a besoin et parce que, on a besoin de ce lieu privilégié, qui est un lieu expérimental où on sait qu'on peut être accueilli, où on sait que, on peut échanger sur nos perceptions et qu'on peut donc les ajuster dans ce travail. C'est un lieu, finalement, qui est un lieu bonificateur pour chacun d'entre nous. Approfondir leur sens ecclésial, le sens de l'Église, c'est que l'Église est une communion d'amour. Donc ça nous renvoie à cette donation première. On est donné les uns aux autres par celui qui nous appelle à la communion et qui nous donne comme lieu de notre accomplissement, le partage de sa vie d'amour. Lieu de parole et lieu de consensus recherché. Le sens ecclésial, c'est ça. Le fonctionnement ecclésial est un lieu de parole et un lieu de consensus. C'est pas la démocratie numérique. Et ça, là on a tous besoin de conversion, parce qu'on est formaté par le fait qu'une voix de plus, c'est nécessairement indicatif du bon. Non, la vérité n'est pas soumise aux critères numériques ni aux sondages. Son fondement est ailleurs. Donc c'est bon qu'on se le rappelle. Et ça veut dire finalement que la communauté sera toujours un lieu de conversion, parce que nous aurons toujours à revisiter et à réajuster nos perceptions. On demande ensuite épanouir l'appel franciscain, c'est-à-dire quelle est la perception de cet appel? Comment nous ravivons cette perception et comment nous la discernons? Et comment, épanouir l'appel franciscain sans prendre le temps d'éclaircir ce qu'on appelle les intuitions franciscaines. Et comment percevoir ces intuitions franciscaines en dehors, finalement, de la tradition, c'est-à-dire du développement du mouvement franciscain depuis François jusqu'à aujourd'hui et son adaptation aux diverses réalités qu'il a dû traverser. Et comment aussi épanouir l'appel franciscain sans la mise en œuvre que supposent nos engagements concrets. Le passage à l'acte chez François est quelque chose d'essentiel. Il ne dit pas « ayez des idées de conversion », il dit « faites de dignes fruits de pénitence ». Faites de dignes fruits de conversion. Et enfin, ils ont animé leur mission d'apostolat dans le monde, et c'est la perception de ce qu'est le charisme, c'est-à-dire la grâce que le Seigneur donne à son Église, à son peuple et au monde, à travers l'existence du mouvement franciscain. Ça, c'est quelque chose qui est donné pour le corps tout entier. Le charisme, c'est ça, pour le corps tout entier. Donc ça veut dire que c'est la mission vers tous, c'est ouvert à tous. Et comme cellule ecclésiale, et ça rejoint ce que dit le pape François, c'est-à-dire c'est ce mouvement de disciples missionnaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être missionnaire sans être disciple, et le disciple ne peut pas ne pas être missionnaire. C'est un renforcement continuel de cette double polarité. Et ça veut dire aussi, on est appelé la mission d'apostolat dans le monde, c'est finalement la perception que l'espérance est capable de transformer bien les choses et que notre place, elle est dans les périphéries, au lieu d'exclusion, et elle est d'être le témoignage que l'Église est en sortie et qu'elle est ouverte à tous. Quelle est la proposition de la bonne nouvelle? J'arrête parce que je parle autant. Et là, je m'excuse de vous avoir amené peut-être un peu rudement. Mais bon, prenez le temps simplement. Un point ou l'autre qui vous a touché particulièrement, prenez un peu le temps de le ruminer, de le laisser descendre en vous et de le laisser vous transformer. Merci de votre attention.